Henri Barbus, le mauvais œil. Au bord du village, le soir, comme un rideau, voilait la maisonnette surmontée d'un chapeau de chaume et d'une plume de fumée. Ce qui passait par là devait écarquiller les yeux pour voir trois minimes créatures remuées sur le banc de la façade, trois enfantines figures dont deux riaient tout haut et l'autre tout bas. Les trois blancheurs grises qui se ressemblaient tant devant la masure bleuie aux deux fenêtres rondes comme des lunettes et à la porte camuse étaient un très vieux homme, un tout petit enfant et une poupée. Voilà tout ce qui restait de la famille naguère logée là, entre les champs et les autres maisons. La destinée en avait successivement retiré l'homme, la femme, l'aïeul. Et Jean-Jean et le père Pierrot subsistaient seuls à l'un et à l'autre bout d'une longue série de tristesses. Entre deux, un vide épouvantable. Mais il n'était pas à un âge où l'on peut voir un pareil vide. L'un ne savait plus ce que l'autre ne savait pas encore. Ils jouaient ensemble de tout leur cœur. Or, ce même soir, alors que tous les passants connus étaient passés, deux êtres étranges, aux museaux effilés et aux yeux pailletés, débouchèrent dans le carrefour. Ils étaient très déconcertants à voir, à cause de leur long manteau et de leur air maudit, et surtout parce que l'un d'eux pleurait. Les yeux scintillants fixèrent la chaumière embuée de soir, au seuil de laquelle palpitait le doux buisson de petites figures blanches. Les fantômes aux traits aigus se firent signe, l'ongle sur la lèvre. Puis ils s'immobilisèrent, s'enterrèrent dans l'ombre qui tombait. Lorsqu'elle fut épaisse, ils s'en exhumèrent, rampèrent vers la maison close et endormis. La porte, touchée d'une façon cabalistique, s'ouvrit. Ils entrèrent sans faire le moindre bruit, comme le cauchemar en personne. Ils sortirent, chargés d'un fardeau pâle, laissèrent entr'ouverte la porte, d'où s'exhala une odeur diabolique de drogue, et tous deux filèrent, leurs têtes dangereuses pointées en avant. Ils dévalèrent d'un sentier raide comme un escalier denté et arrivèrent au bord du torrent. Là, derrière un bouquet de coudriers, s'érigeait une sorte de hutte tremblante. Une voiture. Le cheval avait les sabots enveloppés d'herbe et la voiture était hérissée de branchages, sans doute pour figurer le jour, parmi le décor de verdure des rives, le travestissement d'un buisson. À la lueur d'une lanterne soudain retournée, quatre pattes développèrent le paquet volé. Entre les deux ombres accroupies, brilla un enfant de 2 ans endormi. On déshabilla le petit Jean-Jean. Quand il fut blanc comme un ange, la créature qui tout à l'heure pleurait sourit. On lui enfila, il dormait très fort à cause du filtre, de petits vêtements bariolés extraits du ballot des arbres, un beau costume que sans doute un autre enfant, aussi étroit que lui, avait laissé sur la terre lorsqu'il était parti pour l'étrange paradis des sauvages. Le bonnet de Jean-Jean fut posé sur le bord glissant du torrent furieux et la voiture des exotiques braconniers d'eau reprit sa marche étouffée à travers le monde. Sur la paille de la carriole, le petit Jean-Jean dormait toujours, non loin d'un filet plein d'herbes et de truites scintillantes comme des écus. Cet humble voisinage faisait à la fois une différence et une ressemblance entre l'enfant Jésus dans la crèche et ce nouveau venu dans l'univers. À la fin de l'après-midi seulement, dans la maison, à la porte battante, le vieux Pierrot se réveilla à côté du berceau vide. Sa tête lourde balla de nouveau à droite à gauche sur l'oreiller. Mais enfin, il ouvrit ses paupières de papier jaune. Quel cri, quel sanglot, quelle épouvante! Tout le village ameuté, quelle supplication il adressa l'un à l'autre. On découvrit le bonnet sur la rive abrupte, au fond de laquelle le torrent ne décolérait pas et fracassait des pierres. On comprit tout. Le vieux ne s'étant pas réveillé comme d'ordinaire, l'enfant s'était traîné dehors jusque-là, et on ne retrouva pas le corps, de sorte qu'il n'y eut pas d'enterrement. Lorsqu'il sut que les recherches des messieurs n'avaient pas, malgré tout le puéril espoir qu'il avait mis en eux, amené de miracles, le vieux bonhomme se calma lugubrement. Il cessa de geindre, de pleurnicher, rentra à la maison très sage, s'assit, posa ses mains sur ses genoux, enfin orphelin de tout son monde. Théodore, le grand-père du moulin, qui avait été autrefois, il y avait si longtemps, son cousin, vint le voir et lui tenir compagnie. Pour cela, il s'asseyait près de lui sans rien dire, sa bouche et sa pensée occupées par sa pipe. Mais lui, alors, parlait un peu. Il se complaisait, en présence de Théodore, à énumérer les jeunes et les petits qu'il avait vu mourir autour de lui. Cela commençait par Jeannot, Alexandrine, Thibault. Et il récitait ces noms, placés dans le même ordre monotone, éternel, comme d'autres s'adonnent à une chanson triste. Une fois, en bourrant sa pipe, Théodore parla et dit « T'as peut-être le mauvais œil !» Ce fut un trait de lumière. Dès que cette phrase fut proférée, tous deux ouvrirent la bouche et branlèrent la tête. Puis Pierrot marmotta « J'ai le mauvais œil !» Et Théodore, qui avait repris son silence de pipe, se mit à le penser tout bas, sans discontinuer. Plus de doute, et cela expliquait tout. Jeannot, Alexandrine, Thibault et les autres, et surtout Jean-Jean. Le Pierrot se cantonna chez lui. L'instituteur assura devant plusieurs personnes qu'il allait se ronger tout seul et qu'il devrait voir du monde. Victorine va le lui dire. Faudrait voir du monde, celui-ci, celui-là. Et il fit signe que non. Non, j'ai le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est vrai? Fit la commère inquiète. Oui, répondit-il. Ne vous l'aviez jamais dit, grommela-t-elle. Elle s'en alla, le regard oblique, en reniflant. Avant, elle ne croyait guère à ces histoires-là. Mais quand on vieillit, il ne faut pas se montrer si difficile, ni se risquer à tenter le sort. Il s'emprisonna de plus en plus dans le gris de sa maison, et aussi dans le noir de lui-même. Il fermait les yeux pour voir le petit mort et pour ne pas faire du tort aux petits vivants en les voyant. Et il crut si bien au maléfice de ses regards qu'il passait sa main devant ses yeux dès qu'il entendait des pas menus approcher de la fenêtre où il attendait venir la mort, qui est trop grande pour qu'on la voie. Un jour même, ayant aperçu la poupée de Jean-Jean au fond d'une chaise, il s'écarta doucement en détournant la tête. On apprit les précautions qu'il prenait. On en évita que davantage de passer à sa portée avec des enfants. Pourtant, il aurait eu besoin d'en voir pour mieux conserver le souvenir du disparu. Ce souvenir, lui aussi, disparaissait, s'usait dans la vieille mémoire laborieuse, mais maladroite. Et un beau matin, il lui vint l'idée de s'en aller très loin. Il se plaça de l'argent au milieu d'habits roulés et s'éloigna du village, puisqu'il avait cette malchance suprême d'être à son âge tout à fait libre de faire ce qu'il voulait. Le vieillard, qui ne pouvait plus se perdre, alla sur des routes, dans des villages, se défendant de voir des enfants, cherchant à conserver intacte une mignonne image divine. Un soir, au tournant d'un chemin qui bordait une rivière, il aperçut une drôle de forme, une carriole piquée de rameaux feuillus, avec un cheval aux sabots énormes. Au loin, autour de la carriole, une petite chose sautillait. Oh, c'était un enfant de l'âge qu'aurait eu Jean-Jean à cette heure. Alors le vieux se mit à tourner les talons et à s'éloigner, par crainte des effets de son regard, et il ne vit pas de la sorte que l'enfant était exactement de la même façon que Jean-Jean, formé d'une goutte de soleil au-dessus d'un brin d'ombre, dit qu'il avait l'air malheureux, dit qu'un énorme paquet l'écrasait. Pourtant, le bambin, qui se traînait en geignant sous son gros fardeau, se hâta juste dans la direction du vieillard. Celui-ci précipita alors sa marche pour l'éviter. Mais, après quelques instants de cette drôle de poursuite lamentable, le vieux, qui ne savait plus du tout marcher vite, se rangea sur le bord de la route comme un pauvre mendiant, afin de laisser l'enfant passer. Et tandis que celui-ci s'approcha puis s'éloigna, le grand-père tendit la figure, l'oreille ouverte, le cœur béant, pour recueillir le plus possible de ce précieux passage d'enfant qui l'aiderait à se rappeler le sien, mais il garda honnêtement sa main collée à son visage et ses paupières fermées de toute leur force sur ses regards méchants.